Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, ensemble, défendons la liberté. C'est ainsi que débute la lettre signée et publiée aujourd'hui par une centaine de médias en France, dont France Média Monde. La lettre s'adresse aux Français et appelle à la mobilisation en faveur de la liberté d'expression, alors que le magazine satirique Charlie Hebdo est de nouveau menacé par Al-Qaïda. Liberté de la presse, liberté d'expression, mais est-ce que l'on peut tout dire, tout défendre? En Bulgarie, écrire, publier est un combat quotidien pour les journalistes, dans un pays secoué depuis 2 mois et demi par des manifestations anti-gouvernementales parfois violentes, les journalistes ne sont pas à l'abri, Damien Vedenicharov.
La nuit du 2 septembre à Sofia, aux portes du Parlement et du Conseil des ministres. C'est la manifestation du Grand Soulèvement, un nom qui s'inspire du souffle révolutionnaire au 19e siècle qui mena à la libération du pays du joug ottoman. Aujourd'hui aussi, la colère est de rigueur. Les bousculades et les échauffourées avec la police ont commencé dès 9h du matin. Une fois la nuit tombée, le bruit des pétards continue de résonner et les pavés de voler. Vers 21h, la police disperse la foule et les arrestations commencent. C'est la voix de Dimitar Kenarov, journaliste freelance qui travaille pour le New York Times, l'International Herald Tribune et Foreign Policy. Ces cris sont complètement ignorés par les 3 policiers de la brigade anti-émeute qui l'ont interpellé.
J'ai commencé à crier pour leur expliquer que j'étais journaliste, que je pouvais leur montrer ma carte de presse. Ils n'ont pas réagi, ils m'ont jeté sur les pavés devant le Parlement et j'ai perdu ma caméra. Quelqu'un s'est agenouillé sur mon dos en me tordant les bras sans me menotter, ce qui est illégal. C'est sadique, je ne pouvais plus respirer. Un autre policier a alors commencé à me donner des coups de pied à la tête. J'ai reçu 3 coups, j'ai commencé à saigner.
Une enquête sur les violences policières est en cours, mais pour Dimitar Kenarov, ce n'est pas assez. Il compte également porter plainte contre le ministère de l'Intérieur. Du côté des forces de l'ordre, on se plaint aussi d'avoir reçu des coups et blessures pendant la manifestation. Les policiers reçoivent le soutien du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Ivanov, qui met en garde les journalistes lors d'une table ronde.
Le fait d'être journaliste, ça ne donne pas le droit de casser, ça ne donne pas le droit de battre des policiers, ça ne donne pas le droit de commettre des crimes. Je n'ai vu aucun journaliste avec une caméra être arrêté ou battu. Mais si quelqu'un a une carte de presse et se permet de jeter une bombe vers moi en brandissant sa carte, eh bien oui, il sera interpellé.
Depuis quelques mois, les agressions de journalistes se sont multipliées. Lors d'une assemblée du parti Gerbe du Premier ministre Boyko Borisov, des violences ont éclaté. Des casseurs anonymes ont roué de coups les quelques manifestants présents et s'en sont pris également aux journalistes qui tentaient de leur poser des questions, comme Polina Paunova de la Radio Free Europe.
Quiconque approchait ces gens était agressé. Ils m'ont pris mon téléphone, ils poussaient d'autres collègues, ils nous insultaient aussi. C'était des agressions flagrantes. Et c'était un meeting politique où il devait y avoir un dispositif de sécurité. C'est tout à fait normal que des journalistes soient présents lors d'un meeting politique. Et c'est la première fois que je vois une chose pareille.
Le gouvernement a pris ses distances vis-à-vis des casseurs. Pour les associations professionnelles, les agressions ne sont qu'une nouvelle forme de dénigrement du journalisme en Bulgarie. La presse muselée, les journalistes licenciés, les agressions font en fait partie d'un effort concerté, explique Maria Tchérécheva de l'Association des journalistes européens.
Des journalistes ont été agressés, battus ou aspergés de gaz lacrymogène. Mais il y a aussi autre chose. Les reporters politiques ont été mis à l'écart des élus après l'inauguration du nouveau bâtiment du Parlement. Ça ne date pas d'hier, mais le gouvernement actuel du Premier ministre Boyko Borisov a finalement réussi à réaliser le rêve des politiques bulgares, éloigner physiquement les journalistes. Ce qui veut dire que nos collègues du Parlement sont réduits à être des machines à écrire.
Depuis quelques années, la Bulgarie est en chute libre dans le classement mondial de la liberté de la presse. Elle occupe actuellement la 11e place, de quoi en faire le mouton noir de l'Union européenne aux yeux de Reporters sans frontières.
En Hongrie, Hongrie, le premier ministre souverainiste Viktor Orban a complètement remodelé le paysage médiatique depuis son arrivée au pouvoir il y a 10 ans. L'audiovisuel public est devenu une machine de propagande au service de son parti. Et le clan Orban rachète peu à peu les médias privés. Dernière en date, Index, le principal journal en ligne du pays, le site web le plus fréquenté après Google et YouTube. Aujourd'hui, seuls quelques médias indépendants survivent malgré tout, Florence Labruyère.
Dans un petit local au rez-de-chaussée d'un immeuble budapestois, les journalistes de La Voix hongroise tiennent leur conférence de rédaction. Ils reviennent de loin. Il y a 2 ans, ils travaillaient pour La Nation hongroise, un quotidien critique vis-à-vis du pouvoir. Mais après la réélection triomphante de Viktor Orban en 2018, le journal a cessé de paraître du jour au lendemain, raconte le journaliste Jean Bordiurgy.
En 2018, 2 jours après les élections, le propriétaire de La Nation hongroise a fermé le journal. Nous n'avons pas de preuves, mais nous pensons qu'il a été menacé. Cet homme d'affaires très riche a vendu les médias qu'il possédait au gouvernement où il les a fermés. Et nous, on est restés sur le carreau.
And we remain on the seat.
Une vingtaine de journalistes décident alors de lancer un hebdomadaire. Il s'appelle La Voix hongroise, le magazine qui survit. Ils en seront les propriétaires. 2 ans plus tard, avec 10 000 exemplaires papier et 30 000 lecteurs du site web, le magazine équilibre ses comptes. Mais il n'est pas facile de survivre dans la Hongrie de Viktor Orban, car les entreprises n'osent pas acheter de l'espace publicitaire. Jean Bordiurgy, rédacteur en chef de La Voix hongroise.
On a contacté beaucoup d'entreprises allemandes présentes en Hongrie, comme Audi, Mercedes, mais sans résultat. Une société allemande nous a dit « Votre journal est sur liste noire, vous comprenez ? On a de bonnes relations avec le gouvernement, il nous offre des réductions d'impôts. »
Et la peur s'empare aussi des lecteurs. Comme le journal est distribué par la Poste, certains pensent que le gouvernement a accès à la liste des abonnés. Comme sous le communisme, les Hongrois craignent d'éventuelles représailles du pouvoir, analyse Csaba Lukács, directeur de La Voix hongroise.
On ne sait pas si la peur est fondée, mais elle existe. Dans un petit village, nous avions déjà un abonné. Le facteur lui a dit « Il y a 3 familles qui ont peur de s'abonner. Est-ce que je peux mettre les abonnements à votre nom ?» Le monsieur a accepté. Du coup, ces nouveaux lecteurs sont rassurés. Ils ne seront pas punis parce qu'ils lisent un journal indépendant.
Malgré la résistance de quelques médias critiques, le gouvernement nationaliste de Viktor Orban accroît son contrôle sur la presse. Des hommes d'affaires proches du gouvernement ont récemment mis la main sur Index, le plus grand journal web de Hongrie qui avait près 1 million de lecteurs. Le rédacteur en chef a été limogé. Conséquence, toute la rédaction, soit 100 de journalistes, a démissionné. András Földes, journaliste vidéo à Index.
Ça a été un choc. On avait 2 principes de base à Index. Personne ne pouvait intervenir dans le contenu éditorial et aucun journaliste ne pouvait être licencié sans l'accord de la rédaction. Le renvoi de notre rédacteur en chef était clairement une violation de ces principes. Alors on a tous remis notre lettre de démission et on a tous pleuré. Je filmais avec ma caméra et je pleurais. C'était très émouvant. Index a toujours été plus qu'un simple lieu de travail.
L'affaire d'Index a provoqué un électrochoc. Les médias indépendants comprennent qu'ils peuvent eux aussi être rachetés par des proches du pouvoir. Pour le journal en ligne 444, qui était gratuit jusqu'ici, la seule solution est de passer au modèle payant, estime Peter Erdély, membre de la rédaction de 444.
En Hongrie, la plupart des sites internet sont gratuits. Mais ce que montre l'exemple Index, c'est à quel point un média est vulnérable s'il n'est pas soutenu. Et nous, on saisit cette occasion pour dire à nos lecteurs, il faut que vous acceptiez de payer si vous voulez du journalisme de bonne qualité.
En quelques jours, le portail 444 a reçu une avalanche de dons. Et les journalistes d'Index sont sur le point de lancer un nouveau journal grâce à une campagne réussie de financement participatif. Preuve que les Hongrois sont prêts à soutenir de leur poche une presse indépendante.
Una piazza che canta l'inno d'Italia.
C'est un des pays européens très durement frappé par le coronavirus, au moins 35 000 morts, et pourtant l'Italie a, elle aussi, ses adeptes de la théorie du complot. Pour eux, pas de virus, seulement une mise en scène orchestrée par l'État pour faire taire les citoyens. Vu la situation sanitaire, une grande partie de la presse s'inquiète de ces négationnistes, comme elle les appelle. C'est la chronique en un mot avec Franceline Beretti.
La manifestation du 5 septembre à Rome a beaucoup inquiété les médias italiens. Pourtant, elle n'a pas réuni beaucoup de monde et ses participants avaient des points de vue pour le moins décousus sur la pandémie, comme l'a constaté un journaliste de Fanpage.
Les masques ne servent à rien, c'est pour nous imposer une dictature sanitaire. Il n'y a pas de virus. Le virus est une invention créée pour dominer le monde. Mais le plus grave, c'est que cette grippe sert à apporter le nouvel ordre mondial. Ils vous vaccineront tous. C'est écrit dans l'Apocalypse.
Le lien avec la 5G, c'est que les substances qu'ils mettent dans les vaccins font interférence quand la 5G est allumée. Ils sont en train de nous tuer. Réveillez-vous. Et tous ceux qui disent que nous sommes des négationnistes, ils sont payés par l'État.
Les journalistes italiens utilisent donc, pour commenter ce phénomène, le mot négationnisme. Pour des oreilles françaises, donc pour les miennes, ce terme évoque immédiatement la négation de la Shoah. Et son utilisation pour un autre sujet me choque un peu. Mais négationismo n'a pas la même portée en Italie, m'explique le professeur d'histoire Salvatore Picciotto.
Le mot négationnisme appartient au débat culturel historiographique français, car ce sont bien des historiens français, ou plutôt des pseudo-historiens qui ont commencé à nier la Shoah dans l'après-guerre. Des gens comme Maurice Bardèche, puis Robert Forisson. Ensuite, des pseudo-historiens anglais ont fait la même chose. Et donc, en France, comme en Angleterre, on les a qualifiés de négationnistes. Mais ici, en Italie, nous n'avons pas de problème de négationnisme. Ici, la Shoah, elle a eu lieu. Il y a eu les lois raciales en 1938. Ce qu'on a eu en Italie, c'est un révisionnisme historique.
Ces thèses révisionnistes présentent l'Italie de Mussolini comme soumise à l'Allemagne hitlérienne. Elle n'aurait donc pas pu éviter la déportation des Juifs. Elle minimise aussi les massacres du régime en Libye ou en Éthiopie. Du coup, le terme même de négationnisme est utilisé dans des contextes beaucoup plus variés. Salvatore Picciotto.
On l'utilise pour désigner ceux qui refusent une réalité évidente. Nier l'existence de la pandémie rappelle par analogie ceux qui voudraient annuler un fait aussi évident que la Shoah. Selon moi, il y a un élément intéressant qui réunit les deux phénomènes. Souvent, celui qui nie se réfère à un complot. Que nous disent les négationnistes en substance ? Que ce sont les lobbies juifs qui ont diffusé ces théories de l'Holocauste. Et aujourd'hui, ceux qui nient la pandémie se réfèrent au gouvernement, qui aurait voulu ainsi dominer le peuple. Et dans les deux cas, on oppose le peuple à une élite.
Négationnisti est en tout cas aujourd'hui une insulte. Depuis 3 semaines, les politiques de tous bords se le lancent à la figure. Ça a commencé par les partis au gouvernement, pour attaquer les leaders d'extrême droite et leur aversion à porter le masque. Mais si Giorgia Meloni et son allié Matteo Salvini se défendent de négationnisme, à la manifestation de Rome, leur famille politique était bien là. Il y avait le parti d'extrême droite, Forza Nuova, et certains nostalgiques de Mussolini.
Tant que je serai en vie, je le dirai, vive le Duce.
Aux Pays-Bas, la renaissance du parti dit des pédophiles fait scandale, favorable à la légalisation de la détention de matériel pédopornographique et à l'abaissement de la majorité sexuelle. Le PNVD s'est refondé en août dernier. En l'espace de seulement 2 semaines, une pétition réclamant sa suppression a été signée plus de 600 000 fois. C'est considérable dans un pays de 17 millions d'habitants. Et quelques centaines de personnes se sont réunies à La Haye pour manifester. Antoine Moutot.
Moteur à plein régime, applaudissements, sous le regard impassible des policiers qui les entourent, des dizaines de motards sont venus manifester leur colère sur le Kuhkamp, un parc du centre de La Haye. Aux côtés des quelques autres centaines de personnes réunies autour d'un podium, ici le message est clair. Rapidement, Maria Caraman, l'une des organisatrices du rassemblement, prend la parole.
Les Pays-Bas sont désormais connus pour leur parti pédophile, le seul au monde, et ça, c'est parce que le gouvernement l'autorise.
Les manifestants dénoncent la refondation le mois dernier du PNVD, le parti d'idées pédophiles, en faveur de l'abaissement de la majorité sexuelle, mais aussi de la légalisation de la détention de matériel pédopornographique, de la zoophilie et de la nécrophilie. Maria Karaman.
Ma première réaction, ça a été, mais comment est-ce que c'est possible dans un pays comme les Pays-Bas? Ça provoque beaucoup de réactions, des sentiments terribles chez les gens. Comment une chose pareille est-elle possible?
Elle demande au gouvernement néerlandais de s'emparer rapidement du problème.
Ce que j'espère, ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il interdise le PNVD, que des questions soient posées au Parlement, mais aussi que la prévention dans les écoles ne se borne plus à aborder l'éducation sexuelle, mais qu'elle est aussi pour objectif d'apprendre aux enfants à se défendre contre les pédophiles.
Ici, certains partisans de l'interdiction du PNVD expliquent avoir été enfants victimes d'abus sexuels. C'est le cas de Wouter Springer.
C'est très important pour moi de venir m'exprimer ici. D'abord parce que j'ai moi-même été abusé par mon père. Venir à ce type de rassemblement me donne beaucoup de force. Et aussi parce que c'est invraisemblable d'en arriver à devoir expliquer que tout ça est absurde.
Wouter Springer espère une interdiction rapide du parti.
C'est la troisième fois déjà qu'ils essaient de lancer ce parti. Et j'espère bien que c'est la dernière fois.
Aux Pays-Bas, il est difficile de faire interdire un parti. Une interdiction doit être demandée non pas par le gouvernement ou le parlement, mais par le parquet. Pour cela, il faut que le parti soit à l'origine d'importants troubles à l'ordre public. Et dans un pays comme les Pays-Bas, où les petits partis foisonnent, la question est très sensible. Dans le passé, en 2006 puis 2010, le PNVD n'avait pas réussi à obtenir les 580 signatures minimales requises pour participer aux élections parlementaires. Il y a très peu de chances qu'il y parvienne d'ici les législatives de mars prochain. Pour les manifestants ici présents, participation aux élections ou non, la simple existence de ce mouvement est incompréhensible. Mais entre lutter ouvertement contre le PNVD et l'ignorer, certains hésitent encore. C'est le cas de Wouter Springer.
Ce dont je me rends compte aussi, c'est que ce type de manifestation finit par donner de l'énergie à ce parti, car ça leur apporte indirectement de l'attention et finalement aussi une sorte de droit d'exister. Peut-être qu'on devrait les ignorer complètement.
En 2014, après un long processus juridique, Martijn, une association pédophile, avait été interdite. Les manifestants souhaitent le même sort au PNVD. Les fondateurs du parti, au nombre de deux, n'ont pas accepté de nous parler. Un pays sous le choc, une pétition déjà signée par près de 700 000 personnes. Ils préfèrent désormais éviter les médias.
On part respirer un peu d'air pur dans ce que l'on appelle l'Amazonie d'Europe, classée par l'UNESCO cette année. C'est en Voïvodine, aux confins de la Serbie, de la Croatie et de la Hongrie, une réserve danubienne à la biodiversité exceptionnelle, Simon Rico.
C'est l'une des régions fluviales et humides les mieux préservées de tout le continent européen. Située au nord-ouest de la Serbie, la réserve de Bačko Podunavlje s'étend sur plus de 175 000 hectares dans les zones alluviales de la partie centrale de la plaine du Danube. Dans cette zone où habitent près de 150 000 habitants, on trouve des forêts alluviales, des marais, des lits de roseaux, des habitats d'eau douce, des zones humides alluviales ainsi que des forêts inondables, comme le note l'UNESCO sur son site internet. Grâce à la dynamique fluviale préservée, des espèces rares ont pu s'épanouir ici, notamment des oiseaux, cigognes noires, pigargues à queue blanche, filigules niroka, mais on y trouve aussi des chats sauvages et de nombreuses espèces végétales. Pour l'ONG World Wide Fund, le classement de cette zone par les Nations Unies est une étape très importante dans la création de la réserve de biosphère transfrontalière Mura-Drava-Danube, la première du genre, qui sera répartie sur 5 pays, Serbie, Croatie, Hongrie, Slovénie et Autriche. Dans une Serbie où la protection de l'environnement est loin d'être une priorité, c'est aussi un bon moyen de sensibilisation de la population à la nécessité de prendre soin des ressources naturelles locales. D'autant que ces zones humides sont des puits qui permettent d'absorber le CO2 et donc de limiter le réchauffement climatique. Après celle de Golija Studenica dans le sud, la réserve de Bačko Podunavlje est seulement la deuxième de Serbie protégée par l'UNESCO.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.